France Culture.
Pour moi, Carlo 92, c'est le projet d'une vie. Ça a été 3 ans de travail acharné. Ça a été une folie, en fait. Ça a été un projet complètement dingue, mais en même temps très sensé, puisqu'il a vu le jour. Et ça a été un succès absolument énorme. Et ça a été une histoire vraiment magnifique dans la conception et dans la réalisation.
C'est vraiment un énorme délire qui a fonctionné. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire une espèce d'idée qui était soutenue par de la poésie, mais aussi de l'argent, de la politique. Quelque chose qui a vraiment été une idée qui a été au bout de son histoire.
Folle tournée de Cargo 92. Un documentaire de Pierre Lorimi et Yvon Croisier. Premier épisode, cap sur l'Amérique latine.
Alors moi j'ai eu la chance inouïe de rencontrer un monsieur qui s'appelait Paul Chevillard, qui travaillait dans un organisme qui s'appelait l'Association Française d'Action Artistique, qui est l'ancêtre de ce qu'est maintenant l'Institut Français, et c'est le bras armé du ministère des Affaires étrangères en matière de culture pour la diplomatie culturelle de la France.
Philippe Boulaire, co-initiateur du projet.
Donc j'ai eu l'occasion entre 84 et 90 de faire beaucoup de projets en Amérique latine, ce qui fait que je connaissais à la fois bien le réseau français en Amérique centrale, en Amérique du Sud, mais aussi beaucoup d'autorités politiques locales, beaucoup d'artistes locaux. Et c'est lors d'une mission à Saint-Domingue en 1989 que quelqu'un de l'ambassade de France me dit « Tiens, il y a le président de la République qui était un dictateur, Monsieur Balaguer, qui a été président jusqu'à 95 ans, qui nous invite sur la reconstitution de la Niña » qui avait été fait par les Espagnols dans le cadre du 5e centenaire qui se préparait. Ils avaient fait, et j'ai trouvé ça, et donc on s'est retrouvé sur la Niña avec le président Balaguer et l'héritier de la couronne d'Espagne. Et je me suis dit, c'est ridicule de ressusciter un passé qui n'est pourtant pas glorieux. Et donc je me suis dit, il faut qu'on trouve un projet, que la France rende hommage au peuple latino-américain, qu'elle s'appuie sur son réseau pour proposer une image neuve à la fois de la France et aussi des relations à construire avec eux au travers d'artistes, qui soient des artistes contemporains. Tout était en place pour qu'on change un peu l'image de la France qui était un peu ancienne, un peu datée. Et l'idée était de faire quelque chose. Et l'idée, c'est concrétiser. En rentrant, j'en ai parlé à Pierre Auréfis de Royal Deluxe. On a fait un dîner chez moi. Et à la fin du dîner, le projet était né. En 4 heures, on a créé Cargo. On a créé le concept et on avait la programmation. On a choisi des artistes. 4 heures après, c'était fait. Donc tout de suite, Royal, Manon Negra, Découflé. Et j'ai beaucoup insisté pour que Philippe Gentil vienne. Il avait un succès, mais absolument considérable. Et c'était lui qui représentait l'image d'une France moderne. Et en plus, humainement, je suis sûr que ça va bien se passer avec tout le monde.
Jean-Marc Ayrault, je suis ancien Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, mais j'ai été longtemps maire de Nantes pendant 23 ans.
Comment on vous a présenté ce projet, Jean-Marc Ayrault ?
Écoutez, ce dont j'avais entendu parler, c'était que François Mitterrand avait souhaité que la France s'associe à l'Espagne, qui en avait pris l'initiative pour la célébration du 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, mais j'en ai pas plus d'informations. Et c'est un peu par hasard que le projet de Cargo 92 m'est arrivé sur mon bureau. Et en réalité, je vais vous faire une confidence, c'est par ma femme, Brigitte, qui était à l'époque conseillère au général, enfin on dit départemental maintenant, et qui était à la commission des affaires culturelles, et qui avait rencontré Philippe Boulaire, qui était le promoteur du projet, l'un des promoteurs du projet, qui n'arrivait pas à accéder au maire, et qui finalement avait été à la permanence de ma femme Brigitte. Et qui a été séduite tout de suite par le projet, qui m'en a parlé. Donc ensuite, j'ai rencontré l'équipe, j'ai été séduit par le projet, son état d'esprit. Parce que la célébration du 500e anniversaire de l'Amérique par Christophe Colomb, ça peut résonner de différentes façons.
Exactement.
Ça a un côté un peu paternaliste, un peu néocolonialiste, condescendant, alors que c'est une conquête coloniale. cette conquête, cette découverte de l'Amérique. C'est une conquête coloniale avec sa brutalité et tout ce que ça représente, la destruction de civilisation, de culture, de peuple. Et donc, aller à la rencontre, oui, pour échanger, mais pas pour saluer tout ce qui a été fait avant comme formidable. Donc, il y avait déjà cette ambiguïté à lever. Et effectivement, l'état d'esprit du projet, c'était pas du tout celui-là. C'était au contraire des artistes qui venaient avec tout ce qu'ils avaient comme imprégnation culturelle mondiale et qui voulaient la partager avec d'autres peuples et qui allaient à leur rencontre. C'était un peu l'état d'esprit avec une initiative assez folle, il faut bien le dire, en partant du port de Nantes jusqu'au port de l'Amérique du Sud.
Et le projet de la commémoration, c'était Carou 92. C'était vraiment très traditionnel. Dans les années 50, c'était la Comédie Française qui partait en tournée, ce qui était formidable, mais en bateau, il y avait des aventures incroyables. Et puis, on est resté quand même sur du très classique. Et là, c'était le moment, et je pense que ça y a contribué très fort, de montrer qu'en France, il y avait, depuis l'arrivée, enfin, principalement de Jacques Lang, hein, des compagnies de danse, de théâtre de rue, il y avait vraiment une effervescence incroyable dans les années 80 en France, avec des artistes de qualité incroyable, et c'était, à notre sens, les meilleurs qu'on invitait à participer. Et donc, c'était une image de la France que nous, on souhaitait donner. Certains, au Quai d'Orsay, étaient largement pour cette idée, et d'autres, beaucoup plus traditionnalistes, ont freiné des quatre fers, et ça a donné lieu à des bagarres homériques avant de faire accepter le projet par tout le monde.
Et l'idée du cargo est venue naturellement ?
Alors, ça, c'est pas si simple que ça. Déjà, enfin, il y avait une ambiguïté. C'est-à-dire que lorsque Royal du Luxe a choisi de s'implanter à Nantes, une ville portuaire, leur idée, c'était de s'installer comme siège dans un cargo, dans un bateau, mais que nous n'avions pas à leur offrir. On leur a ouvert les portes d'un ancien entrepôt, une riserie, avec des volumes absolument conséquents. On les a logés. Et c'est toujours leur lieu de travail. C'est là qu'ils préparent leur spectacle. Les grands formats comme les petits formats. Et Jean-Luc Courcoul, qui en est le directeur, est toujours là. Et donc, finalement, Royal Deluxe ne s'est jamais installé dans un cargo, mais ils avaient quand même l'idée du bateau. Et donc, c'est eux qui ont lancé l'idée. L'idée que des artistes partiraient, non pas à la découverte de l'Amérique, mais partiraient avec des compagnies d'artistes pour une rencontre, pour un échange à l'occasion du 500e anniversaire. Donc c'était le pari. Mais évidemment, entre l'idée, le concept et la réalité, il y a un fossé immense. Il y a presque un océan.
Voilà, quand on passe du rêve à la réalité, on est confronté à des tas de choses. Ce n'est pas notre domaine, le domaine maritime. Donc on a fait des visites. On a fait des visites avec un spécialiste du domaine maritime. Il y avait un élu de la ville de Nantes qui était armateur. Donc, on a fait des visites avec lui un peu partout. Moi, je suis allé dans le port d'Athènes avec lui visiter des bateaux qui étaient complètement pourris. Enfin, ça a été un petit peu difficile. Et on a cherché pendant assez longtemps. Et il y a un jour, en Espagne, il trouve le bateau Idoine, parfait. Parfait, et qui correspondait exactement à ce qu'on cherchait. 95 mètres de long, deux grandes cales très profondes, le tirant d'eau qui convenait pour entrer dans les ports latino-américains, un état correct. Et donc, il nous dit, ben voilà, il faut le payer. C'était 1 050 000 dollars. Il y a 48 heures pour payer.
Écoutez, il fallait mobiliser plein de gens et il fallait d'abord avoir l'accord de la commission de coordination des projets, enfin de sélection des projets, parce qu'il y avait énormément d'appels à projets. On fait souvent des appels à projets. Et ça a monté au ministère des Affaires étrangères, ce qui était le pilote de ces échanges. Mais ça butait sur le volume financier de cette opération. C'était le projet le plus cher qui était présenté. Donc a priori, c'était non. Et puis, il y a eu tellement de force de conviction des promoteurs du projet, Philippe Boulaire, Pierre Auré-Fils, que ça a fait bouger les lignes. Et il y a eu des alliés. Il y avait des alliés au ministère des Affaires étrangères. Il y avait des alliés à Matignon. Et puis, finalement, ça a fini par progresser. Et en particulier, il fallait l'accord de la ville de Nantes. En fait, tout a été déclenché par l'initiative que j'ai prise comme maire de donner un feu vert à ce projet. Et donner un feu vert à ce projet, ça voulait dire quoi concrètement ? C'était un peu fou. Quand j'y repense aujourd'hui, c'était totalement fou. C'était que la ville de Nantes achète le bateau, achète le cargo. Ça coûte cher. Et il y a eu quand même beaucoup de réticences, beaucoup d'interrogations. La région finance a levé les bras au ciel. j'ai eu vraiment des difficultés. Il y a même eu un vote en conseil municipal qui a été positif, mais il a fallu faire preuve de beaucoup, beaucoup de conviction. Et on a acheté ce cargo.
À l'époque, quand on a fait notre projet, nous avions 20 000 francs, ce qui correspond à 3 000 euros sur notre compte. C'est-à-dire, nous, on n'avait pas d'argent. Le peu d'argent qu'on avait, c'était donné par l'Association française d'action artistique. Et donc là, et on était en négociation quand même depuis longtemps, avec à la fois Jacques Lang, avec le Quai d'Orsay, mais aussi avec Jean-Marc Ayrault, le maire de Nantes, qui avait donné, après beaucoup de péripéties, avait donné son accord pour soutenir le projet. Et que l'accord était une participation de la ville à hauteur de 6 millions de francs, qui était le prix du bateau. Sauf que là, on était au mois d'octobre, la ville devait voter en décembre la subvention permettant d'acheter le bateau, et là on avait 48 heures pour l'acheter. Donc là on a eu quelque chose d'incroyable. Alors je pense que maintenant on ferait un truc comme ça, on aurait le droit au canard enchaîné, mais ça s'est fait dans de la panique, et Jean-Marc Ayrault a accepté de venir à la caisse d'épargne avec nous pour dire en fait, il faut que vous puissiez faire un virement Swift de 1 050 000. Et c'était un nouveau directeur de la Caisse d'épargne qui venait d'être nommé. Vraiment, on avait 20 000 francs et on lui demande de faire un découvert d'1 050 000 dollars. Et le maire disait, écoutez, moi, je peux m'engager à présenter ce dossier au conseil municipal en décembre. Je ne peux pas m'engager à ce qu'il soit voté. J'ai bon espoir, mais voilà. Et la banque a accepté de faire cette démarche. Ce qui est incroyable. Ils ont accepté de faire cette démarche et le bateau, ça a été le point de non-retour. On ne peut plus revenir en arrière quand le bateau... Et donc après, Jean-Marc Ayrault m'a beaucoup aidé à convaincre Jacques Lang en disant « Nous, on a mis 6 millions, il faut que tu mettes 6 millions aussi. » Quand on a eu l'un, on a eu l'autre. Voilà, donc on a eu nos trois financeurs principaux, le Quai d'Orsay qui a mis 18 millions, ce qui était énorme. 6 millions de ministère de la Culture, 6 millions de la ville de Nantes. Le reste, ce sont des partenaires privés, ce sont des sociétés civiles. On avait évalué ce coût à au-delà de 40 millions de francs à l'époque. Bon, avec les francs de 90, c'est à peu près les euros de maintenant.
Ça a coûté cher, cette opération. Mais ce cargo, figurez-vous, lorsque l'aventure a été terminée, nous l'avons revendu. Il a navigué à nouveau comme navire commercial pendant 20 ans. Donc on avait fait une opération, je dirais, à la fois audacieuse et en même temps bien gérée, bien maîtrisée. Soucieuse des données publiques. Non mais bon, Cargo 92, c'était une folle aventure. Mais je suis heureux et fier de l'avoir partagé avec beaucoup d'autres. Et puis moi, je suis très reconnaissant à ceux qui ont eu l'idée géniale et qui ont persévéré pour la faire partager, parce que c'est comme ça souvent que ça se passe. Et on en a fait quelque chose de formidable, et ça c'était le projet des artistes, c'est le projet de Royal Deluxe, qui était la compagnie principale du projet. Il y avait aussi La Manon Negra, il y avait aussi Philippe de Coufflet, il y avait aussi Philippe Gentil, c'était ça les quatre compagnies. Mais l'idée c'était dans les cales du bateau, qui ça veut dire beaucoup beaucoup de place dans un cargo, d'y faire une rue de France, et en réalité une rue de Nantes. La rue Jules Verne évidemment, qui est née à Nantes, et... Il y avait des artistes, avec François Delarosière, qui ont conçu le projet artistique de réalisation de cette rue et de cette place, de ce bistrot, de ce bureau de poste, de cette épicerie, de cette boucherie, etc. Et en réalité, c'est ces ateliers municipaux qui ont réalisé tous ces travaux. Et qui étaient... Là, il y a eu un élan formidable des services municipaux, des ouvriers des ateliers municipaux qui se sont sentis... porteurs d'un projet artistique qui leur apportait quelque chose de plus que de leur quotidien, de leur travail quotidien, et qui ont montré leur formidable savoir-faire.
Alors, je m'appelle François Delarosière, je suis directeur artistique de la compagnie La Machine et de la halle de La Machine. Alors, l'histoire de Cargo 92 n'a pas commencé ici parce que tous ces lieux n'existaient pas ou n'avaient pas cette fonction, cette allure, puisqu'on était encore sur une friche industrielle. On est sur les anciens chantiers navals. Et pour Cargo 92, ça s'est passé plus en amont, sur la Loire, au bord d'un quai un petit peu en désuétude, le quai de la Roche-Maurice, sous le pont de Cheviré. Et c'est là que l'aventure s'est faite. Par exemple, je ne suis pas parti avec le cargo en Amérique du Sud, après avoir construit avec une équipe de 6 personnes la rue. Et je n'aimais pas trop les tournées.
Pourquoi, justement ?
J'avais flairé un peu l'aventure qui serait quand même un petit peu... pas foireuse, mais je connaissais tous les loustiques qui s'embarquaient et je sais que j'étais vraiment plasticien, constructeur. J'aimais faire, en fait. J'aimais dessiner, construire, me confronter à la matière. Et j'étais très bien avec mes amis à construire pendant que les autres faisaient les saltimbanques, quoi, on va dire. Mais évidemment, je vivais l'aventure plein pot avec la Mano Negra, Philippe Gentil, Découflé, tous ces comédiens, ces danseurs, ces musiciens qu'on a croisés, rencontrés. C'était une aventure vraiment assez extraordinaire à tous les niveaux, hein, vraiment XXL. Je me rappelle être parti avec Pierre Auréfis, choisir le cargo à la Corogne, quoi, aller l'acheter, quoi, visiter le cargo avant qu'il soit acheté. J'ai rarement eu occasion ensuite de ma vie d'acheter des cargos. Hein.
Comment on vous a présenté l'opération et quels étaient les défis techniques ? Construire une rue nantaise, la rue Jules Verne.
C'était une idée assez saugrenue de vouloir construire une rue dans la cale d'un cargo. Et ça m'a tout de suite plu. Et donc il a fallu choisir dans Nantes, c'était une rue nantaise, des façades d'immeubles. En me promenant, j'ai fait des photos et puis j'ai fait une espèce de patchwork de façades emblématiques de Nantes avec... On a même récupéré toute la déco d'un bar, le central, un bar qui est devenu le bar de la rue du cargo.
Bon. Quelles étaient les dimensions?
C'était un petit cargo, hein. C'est un cargo qui faisait 100 mètres de long. Et la cale faisait, je crois, si je me souviens bien, 35 mètres. Mais ce qui était un peu particulier, c'est que j'avais moi jamais travaillé sur les bateaux. Les tôles sont très épaisses et il fallait notamment faire des ouvertures pour créer des accès avec des escaliers. Et donc on travaillait avec le Lloyd's, qui était un bureau de contrôle, en fait, qui nous conseillait. Et j'ai appris beaucoup sur le fait d'enlever de la matière sur un bateau. On fragilise un ouvrage qui est quand même, qui prend des vagues, qui peut être complètement en porte-à-faux entre deux vagues et se plier sur lui-même. Donc il ne faut pas faire de bêtises. Et en même temps, il fallait être dans une folie. C'est pour ça qu'on a fait vraiment les ateliers municipaux ont participé à l'aventure. Ils sont venus paver la rue, par exemple. Voilà.
Avec
des vrais pavés, on a récupéré des bouches d'égout, les balcons, il y avait Nantes Culture et Patrimoine qui récupérait tous les vieux balcons parce que les Américains étaient en train de racheter tous les balcons des vieux bâtiments nantais. Donc il y a une association de préservation qui a arrêté cette hémorragie. Et donc on nous a prêté ces balcons, les vieux balcons en fer forgé notamment. Et on a même inventé un procédé de moulage de ces... On construisait tout sur place en fait. On avait acheté une grue à Tours, hein. Je vois, à l'époque c'était 1 million de francs, c'était énorme. Et on a créé un dispositif de moulage où on coulait du béton sur 160 mm d'épaisseur et on créait la façade en contre-moule, on va dire, et puis on coulait le béton dessus et ensuite on mettait ces moules avec la grue verticaux pour pouvoir les démouler, pour les installer sur une structure en hache en fait, en métal. Et ça, il a fallu vraiment... tout faire, tout créer nous-mêmes, et c'était passionnant, c'était un défi quotidien. On a même planté un arbre dans la rue. Ce qui était assez fou avec cet arbre, c'est que cet arbre, on a l'impression qu'on pensait qu'il était mort, et le cargo est parti avec cet arbre qui était éteint, et il a fleuri pendant la traversée, et quand ils ont ouvert les cales du cargo, cet arbre était en fleurs.
Donc on a mis plus de 2 ans à arriver au bout de notre projet. Moi, le Quai d'Orsay m'envoyait régulièrement en mission pour valider le projet avec les Latino-Américains. Et donc, j'allais faire des prospections très régulièrement dans tous les pays d'Amérique latine pour, d'une part, valider la proposition technique, aller voir dans les ports si le bateau rentrait bien, rencontrer les autorités politiques locales pour savoir si elles adhéraient, donc les présidents de la République, les maires des grandes villes, les grands artistes, les grands financeurs. Ça se faisait en fait d'une manière assez, assez fluide. J'ai une anecdote qui est incroyable et qui va être un peu le point de bascule. On avait été avisé que l'ambassadeur de France en Colombie avait essayé d'agréger autour de lui un certain nombre d'ambassadeurs pour lutter contre ça en disant invasion de barbares qui va venir, c'est pas l'image de la France. Enfin, lui, il était vraiment tout à fait contre. Et par ailleurs, Jean-Luc Courcoult avait souhaité que le bateau s'appelle le Melquiades pour rendre hommage au personnage de Cent ans de solitude de Garcia Marquez. J'arrive à Bogota, je vais à l'ambassade et je suis accueilli par un type incroyable. J'ai une espèce de sosie de Jacques Brel qui arrive avec une canne et qui me dit, je suis le premier secrétaire d'ambassade, c'est monsieur Denis Venn, qui a été ensuite ambassadeur de France, et qui me dit, l'ambassadeur est parti en vacances et ne souhaite pas vous rencontrer, il ne souhaite pas que je vous reçoive, parce qu'il est très opposé à votre projet. Et donc je sors, j'étais paniqué, enfin je me dis, qu'est-ce que je fais? Donc j'appelle mes amis du festival de Bogota, l'administratrice du festival de Bogota me dit, tu veux rencontrer la première dame parce que c'est une très bonne amie et peut-être qu'elle pourra t'aider. Et elle me dit, tu as petit déjeuner demain matin à 8h avec la première dame au palais présidentiel. Je m'habille, je trouve ma chemise blanche, je me pointe au palais présidentiel, un peu stressé je dois dire, hein. Et je vois Madame Gaviria, extrêmement chic, je lui fais un baise-main, on s'installe chacun à un bout d'une table, très longue table, et donc je raconte le projet. Et elle me dit, mais c'est formidable, et qu'attendiez-vous de moi? J'avais juste pas pensé à ça. Et donc là, j'improvise un peu et je lui dis, bah, écoutez, le bateau s'appelle le Melquiades Ville de Nantes, en hommage à Cent ans de solitude, le roman de Gabriel Garcia Marquez, que je dois rencontrer après vous pour lui demander l'autorisation d'utiliser ce nom. Et Gabriel Garcia Marquez étant le parrain du projet, j'aimerais, madame, que vous en soyez la marraine. Elle m'a dit, je suis très honorée, bien sûr, c'est un grand plaisir. Et donc du coup, eh bien, voilà, l'ambassade était obligé d'accepter. Et ça a été un grand bouchon qui a sauté, là, dans cette mission.
Le commandant Houppier, plutôt habitué aux navettes dans la Manche, est le maître à bord du Melquiades Ville de Nantes, parti de chez nous le 6 mars vers 15 pays d'Amérique latine, 5 mois pour 120 spectacles par 4 troupes françaises de talent, Manon Negra, Royal de Luxe, Découflé, Gentil. L'écrivain Gabriel Garcia Marquez, Gabo, dit-on affectueusement à Carthagène, sa ville, est le premier à descendre dans la cale qui fait escale. D'abord parce que le cargo ambassadeur est métamorphosé en rue française, surtout parce que Melquiades porte le nom d'un héros d'un livre du prix Nobel de littérature, Cent ans de solitude.
C'est un petit secret que je vous livre. Mon personnage du gitan Melquiades est inspiré de votre devin Nostradamus. Il y a plusieurs coïncidences avec ce bateau baptisé le Melquiades. De ce fait, j'en suis fier. Une merveilleuse idée que d'avoir pensé à faire traverser l'Atlantique à une rue de France pour aboutir à notre rivage.
Vous vous souvenez du 6 mars 92, jour de l'inauguration du cargo, oui. Je crois qu'il y avait énormément de monde.
Il y avait plusieurs milliers de personnes, 5000 personnes au moins qui étaient là. Il y avait même les plus hostiles au projet qui étaient présents. Et surtout, ce qui est formidable, c'est que ça a été un succès populaire en Amérique de Latine et d'Amérique du Sud. C'était pas gagné d'avance. Les spectacles, alors il y avait le spectacle de Royal de Luxe, la véritable histoire de France qui avait été présentée à Avignon, qui était un grand succès. Il y avait donc Manon Negra avec les concerts, Philippe Gentil et les marionnettes, et puis la danse avec Philippe Découflé. Donc c'était sans parole en quelque sorte. Mais ça permettrait de toucher un très 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 large public. Il y a eu des centaines de milliers de personnes. Et donc les diplomates qui étaient les plus réticents à ce projet, qui voyaient en quelque sorte un affront à l'image traditionnelle de la France, se sont rendus compte sur place que l'accueil populaire dans ces pays était formidable et que ça donnait une image de la France d'ouverture, de générosité, de dialogue et d'échange. Et depuis, ils n'arrêtent pas de se féliciter que Cargo 92, c'était une aventure formidable.
Le principe, c'est que le bateau naviguait et que pendant que le bateau naviguait, ça prenait quelques jours, les artistes partaient en avion dans d'autres pays pour présenter des spectacles un peu partout. C'est-à-dire qu'il y a eu des spectacles dans des pays qui n'ont pas accueilli le bateau. C'est-à-dire que le Mexique, tous les pays, le Cuba, le Guatemala, l'Équateur, le Pérou, le Chili, ont accueilli des spectacles, mais n'ont pas accueilli le bateau, parce que le temps de navigation, tous les artistes voyageaient. Il y a eu 1200 billets d'avion au total. Ça veut dire que c'était une espèce de mouvement incessant et permanent de tournée. Donc le bateau lui-même, il voyageait. Donc il y avait une première étape qui était à Caracas, la deuxième, donc La Guaira, qui est le port de Caracas, la deuxième à Carthagène des Indes, avec toute une expédition entre Carthagène, où était le bateau, et Bogota, hein, plusieurs centaines de kilomètres par la route, avec les FARC qui étaient là. Ensuite, le bateau est allé à Saint-Domingue. Saint-Domingue, je vais y revenir parce qu'il y a eu quelque chose d'incroyable. Et ensuite, après Saint-Domingue, il partait pour le Brésil, deux étapes au Brésil, Rio Santos, le port de São Paulo, Montevideo et Buenos Aires. Donc, grande étape. Et un jour, pendant le montage, à Nantes, je reçois un coup de téléphone d'un type qui me dit « Bonjour, c'est machin, j'ai oublié son nom ». Et il me dit « Je suis le secrétaire général du Livre CGT à Paris, j'aimerais te rencontrer ». Je vais à Paris, je le rencontre, charmant, un type drôle, sympa, hyper accueillant. Et il me dit « Bah voilà, t'es au courant qu'il y a un blocus de Cuba par les États-Unis. Les écoles n'ont plus de papier, n'ont plus d'encre pour les machins. Donc nous, la CGT du Livre, on veut offrir 40 tonnes de papier, de l'encre, des stylos, machin, mais en énorme quantité. » Et on ne sait pas comment les faire parvenir, donc on s'est dit que dans ton cargo, tu pourrais nous les transporter. Alors j'ai dit, a priori, je pense que ça pose aucun problème, mais c'est évidemment, je demande à tous les artistes s'ils sont d'accord. Mais 3 jours avant le départ de Nantes, avec la foule nantaise, les autorités qui venaient, Jacques Lang qui venait, il y avait vraiment une énorme fête qui était prévue pour le départ du bateau, et tous les artistes étaient là. Et 3 jours avant, il y a une réunion de sécurité à la préfecture, avec le préfet, le directeur de cabinet du maire de Nantes, toutes les autorités compétentes. Et on m'annonce, on me dit, il y a une grève nationale des dockers CGT dans toute la France pendant une semaine. Et donc le bateau est bloqué. C'est impossible. Et je dis, mais c'est impossible de reporter. On est dans un timing tellement serré. Et puis alors, toutes les invitations sont lancées. Enfin, le public est là. C'est impossible. Et il m'a dit, oui, mais c'est bon, il n'y a aucun port qui fonctionne. Et je dis, en pleine réunion avec le préfet, je dis, est-ce que vous me permettez de téléphoner? Est-ce qu'il y a un bureau où je peux téléphoner? Et donc, j'appelle le secrétaire général du Livre CGT et je lui raconte l'histoire. Il me dit, ouh, bouge pas, je te rappelle dans 10 minutes. Donc, j'ai attendu 10 minutes et il me rappelle et me dit, alors, non seulement ils vont vous libérer le passage pour que vous puissiez passer, mais à titre de solidarité pour notre histoire commune avec Cuba, ils vont vous aider à charger le bateau. Comme quoi, tout s'est imbriqué d'une manière incroyable. Et que voilà, et puis qu'effectivement, ce chargement est arrivé à destination à Cuba pour les écoles, et que du coup, place de la Révolution, Mano Negra est allé faire un concert gratuit devant une foule considérable, et ça a été un succès mais énorme pour Mano Negra.
Cap sur l'Amérique latine avec Philippe Boulaire, Jean-Marc Hérault, François Delarosière et Patrick Lefebvre. Chargé de programme, Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin. La folle tournée de Cargo 92, un documentaire de Pierre Lorimi et Yvon Croisier.
Magic.